parole protestante sur RCF Anjou.
Bonjour chers auditeurs, c'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard de Lépine. Nous sommes tous trois actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Comme chaque premier dimanche du mois, nous vous proposons un entretien sur la prière. Aujourd'hui, notre émission est un peu insolite puisque nous allons nous entretenir sur la prière à l'occasion des voyages. En ce temps de vacances, mais pas uniquement, il y a beaucoup de déplacements dans nos sociétés. Nous verrons ensemble ce que la Bible nous enseigne sur les voyages en général. Nous ferons la distinction entre la foi et la protection superstitieuse, sans oublier de parler de la prière, bien sûr. Bernard, vous pensez vraiment que nous pourrons faire toute une émission sur ce sujet ?
À vrai dire, Jean-Pierre, je pense qu'il faudrait même plusieurs émissions, tant la Bible nous parle de voyages.
Vraiment, c'est étonnant. Alors, pourriez-vous nous en évoquer quelques-uns ?
Oui, très tôt, dans le livre de la Genèse, on dit... On voit que des personnes se déplacent ici ou là et puis construisent des villes. Beaucoup plus insolites, on découvre le voyage de Noé en bateau. Voilà. On suit aussi les pérégrinations d'Abraham, à qui Dieu avait dit « Quitte ton pays, puis va dans le pays que je vais te montrer ». Voilà, et puis très directement lié à la prière, je pense aussi à celle d'Éliézer, le serviteur d'Abraham, qui part chercher une femme pour Isaac. Arrivé sur place, le texte nous dit que l'homme regardait Rebecca sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Puis il prie. Il dit « Je me suis incliné pour adorer le Seigneur, je l'ai remercié de m'avoir conduit ici sans incident, je pourrais ainsi ramener Rebecca au fils de mon maître ». Ah, on peut aussi évoquer les caravanes avec les chameaux. Joseph a été vendu à l'une d'elles et s'est retrouvé en Égypte, souvenez-vous. Et puis c'est toute la famille qui le rejoint. Et 400 ans plus tard, ses descendants font le voyage en sens inverse, avec un périple, mais vous vous souvenez certainement de ces 40 ans dans le désert, avec 6000 personnes quand même, ça fait un paquet. Voyez-vous, Jean-Pierre, les récits de voyages sont multiples, incessants, et si on creuse un peu, partout il y a de la prière.
Merci Bernard. Daniel, avez-vous d'autres exemples ?
Oui, alors dans le Nouveau Testament, on peut parler du voyage de Joseph et de Marie, de Nazareth à Bethléem. On ne s'en rend pas bien compte, mais là aussi c'était un périple. Rendez-vous compte, plus de 150 kilomètres sur des chemins qui étaient loin d'être des autoroutes.
En effet, on a du mal à imaginer, Daniel.
Ouais, et en plus de cela, Jean-Pierre, comme vous savez, Marie était enceinte de 8-9 mois. À Dodane, c'était loin d'être confortable. Et je profite pour dire que ce voyage, si pénible soit-il, répondait à une prophétie. 600 ans avant, le prophète Michée avait annoncé « Et toi, Bethléem, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité ». Et cette parole est reprise par Matthieu. Un voyage réalisant une parole prophétique, voilà qui n'est pas banal, Jean-Pierre.
On ne raisonne pas souvent en termes prophétiques, en effet. Vous pensez certainement à d'autres voyages dans le Nouveau Testament ?
Oui, bien sûr. Je pense au voyage de Jésus avec ses parents lors du pèlerinage de Pâques à Jérusalem, alors qu'il avait 12 ans. Bon, il faut savoir que les hommes, quand ils le pouvaient, devaient faire 3 pèlerinages chaque année à Pâques, à Pentecôte et à la fête des Tabernacles. Donc ce sont des foules qui se déplaçaient jusqu'à Jérusalem, souvent en famille et quelquefois par village. Et le titre de cet épisode aurait pu être « Enfant perdu et retrouvé ». Après la fête, donc, il nous est dit que Joseph et Marie repartent. Mais Jésus reste à Jérusalem. Ses parents ne s'en aperçoivent pas tout de suite. Ils pensent qu'il est avec les autres voyageurs. Mais après une journée de marche, ils se mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais ils ne le trouvent pas. Donc, ils retournent à Jérusalem. Et ils le retrouvent au bout de 3 jours d'angoisse, alors que lui est assis et discute avec des enseignants. Pour toute réponse, Jésus leur dit qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son père céleste, bien sûr, pas Joseph.
Quelle histoire ce voyage. Ouais. Je suis certain que les années suivantes, ils ont vérifié que Jésus était bien avec eux pour le retour. Était-ce le premier voyage de Jésus ?
Eh non, car son premier grand voyage, c'était pour fuir une situation de menace de mort. ses parents partent avec lui se réfugier en Égypte. Au passage, Jésus a été un immigré, fuyant une situation difficile, tout comme d'autres fuient leur pays aujourd'hui.
Merci Daniel. Bernard, à votre tour, je suis sûr que vous avez d'autres voyages en tête.
Ah oui, Jean-Pierre. Et on ne pourra pas évoquer tous les voyages de Jésus et de ses disciples qui ont sillonné le pays de long en large. Je vais juste parler du bout de chemin fait par Jésus avec les disciples dits d'Emmaüs. J'aime bien ce récit parce qu'il nous est rapporté que Jésus fit route avec eux. Ah ben, je trouve quand même c'est tellement important que Jésus nous rejoigne et fasse route avec nous. L'avoir à nos côtés durant notre cheminement sur terre est capital. Et sur le chemin, Jésus les enseigne et leur séparation se fait avec un partage de la scène et donc de la prière. Ben, peut-être que nous aussi, nous pourrions demander à Jésus de faire route avec nous et de nous enseigner, nous aussi, sur notre chemin.
C'est tellement vrai ce que vous dites là, Bernard.
Quand on parle de voyage, y en a un autre que je trouve chouette, c'est celui de l'eunuque qui, sur son chariot, est en train de lire le prophète Isaïe. Ah, le Seigneur lui envoie Philippe, qui monte sur le chariot, et il lui explique les choses concernant Jésus. Puis le chariot s'arrête, Philippe baptise l'homme, après quoi Philippe est littéralement téléporté dans une autre ville. Ça, moi, ça me plairait bien. On pourrait éviter du carburant, mais c'est pas le sujet. Et comment ne pas évoquer les voyages missionnaires de l'apôtre Paul ? C'est qu'il en a avalé des kilomètres, celui-ci. D'ailleurs, dans la deuxième lettre de l'église de Corinthe, il en parle. Je vous en lis une partie où il dit « Ben, dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands. Trois fois, j'ai fait naufrage. Trois fois, j'ai été battu de coups de fouet par les Romains. Et une fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. » Ben, j'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. J'ai aussi souffert du froid et du manque de vêtements.
Eh bien, dit donc, tout ça pour un seul homme, ça fait beaucoup.
C'est ça.
Je rigole, mais à peine, car je ne suis pas certain de vouloir échanger nos vies.
Ah bon?
On en parle dans une poignée de secondes.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous sommes toujours dans l'émission Parole protestante. Nous parlons des voyages et de la prière. À l'instant, Bernard nous lisait les dangers endurés par l'apôtre Paul durant ses voyages. Je ne voudrais pas vous provoquer, mais peut-être n'avait-il pas assez prié pour bénéficier de la protection de Dieu. Non, Daniel ?
Ça, Jean-Pierre, c'est ne voir que par un tout petit bout de la lorgnette. Et le Seigneur a promis de nous accompagner, mais pas de mettre devant notre chemin des pédales de rose. Il n'a pas dit qu'il ne nous arriverait rien de difficile en route, mais que tout est sous son contrôle. Concernant Paul, même si ça a été très douloureux parfois, il est toujours arrivé à bon port pour la mission que Jésus lui donnait au fur et à mesure. Par exemple, avec son équipe, il décide de se rendre dans deux régions, la Mysie et la Bithynie, mais le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Le texte nous rapporte que pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours !» Et ce passage est important pour nous, Jean-Pierre, car suite à cette vision et à cette prière, Paul se rend dans la ville de Philippe. Ce sera l'annonce de l'Évangile pour la première fois en Europe. Nous sommes donc concernés. Paul est empêché d'aller ça et là, du fait d'une prière reçue en songe, et il se déplace chez nous.
Ah oui, oui, comme ça, Bernard.
Bah oui, parlant de prière, moi j'aime beaucoup aussi un autre passage biblique, c'est dans le livre d'Esdras. Celui-ci a été fils de déporté, il rentre au pays avec 1700 hommes, et... Voilà, c'est quand même considérable. Et mais avant de partir pour ce voyage de 4 mois, hein, ça a duré longtemps, ben Esdras décrète un temps de jeûne et de prière. Et je cite, hein, il dit « Là, près du fleuve, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de le prier de nous accorder un heureux voyage. » J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé « la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le cherchent afin de leur faire du bien ». C'est pour ça que nous avons jeûné et invoqué notre Dieu, et il termine et il conclut en disant « et notre Dieu nous a exaucés ».
C'est comme la prière à Saint-Christophe, non ?
Jean-Pierre, il ne faudrait pas confondre foi en Dieu, confiance en Jésus, qui nous assure être avec nous tous les jours de notre vie, avec la superstition d'une légende. Selon cette dernière, Christophe, un géant, aurait aidé Jésus à traverser une rivière. Bon, c'est un peu gros, non ? Jésus, qui a marché sur l'eau, n'a vraiment pas besoin de ça. Et nulle trace de cette légende dans la Bible. Là, nous sommes plutôt dans la superstition. Et c'est faire appel à des entités mauvaises, genre gris-gris, contre le mauvais sort. Ça s'appelle tout simplement du paganisme et non de la foi en Dieu, même s'il y a le mot « saint ». Bon, perso, j'ai d'ailleurs un peu de mal avec la pensée qu'il faille évoquer des saints dans la prière. J'adhère plutôt au dicton « mieux vaut s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints ».
Bon, d'accord, Daniel. Mais d'où vient alors le fait de prier pour être gardé dans les voyages ?
Je pense que c'est suite à plusieurs citations bibliques aussi, hein. Je vais prendre par exemple le psaume 121 qui est appelé le psaume du voyageur. Alors je vous lis quelques versets seulement. « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. »
Bernard, vous qui avez voyagé un peu, ne vous arrive-t-il pas de prier aussi pour la sécurité durant vos voyages ?
Moins pour la sécurité que pour la réussite du voyage, Jean-Pierre. Avec mon fils aîné, nous sommes allés en mission au Togo en novembre dernier. Bien sûr que j'ai prié, mais plutôt prié dans le sens où nous soyons une bénédiction pour tous ceux que nous allions croiser, en particulier ceux qui allaient bénéficier de nos enseignements. Voilà, mais je fais la même prière lorsque on me demande de prêcher dans une autre église ou lorsque je vais dans les rues pour prier dans les rues d'Angers. Voilà, et je prie, Seigneur, donne-moi de rencontrer des personnes avec qui je vais pouvoir parler de toi et peut-être prier pour elles si elles ont des besoins.
Merci Bernard. Daniel, je vois que vous souhaitez rebondir.
Oui, alors j'aimerais évoquer Patrick qui fut un missionnaire en Irlande. Il voyageait beaucoup dans le pays pour annoncer l'évangile, créant des églises sur tout le territoire. Et j'aime bien une partie de sa prière. La voici. « J'avance sur ma route avec la force de Dieu comme appui, la puissance de Dieu pour me protéger, la sagesse de Dieu pour me diriger, l'œil de Dieu pour me guider, l'oreille de Dieu témoin de mon langage. Que la parole de Dieu soit sur mes lèvres, que la main de Dieu me garde, que le chemin qui mène à Dieu s'étende devant moi. » Christ devant moi, derrière moi, Christ sous moi, sur moi, Christ en moi et à mes côtés, Christ autour et alentour, Christ à ma gauche et Christ à ma droite, Christ avec moi le matin et avec moi le soir. Ce n'est qu'une petite partie de la prière, mais je la trouve très parlante.
Belle prière en effet. Merci à vous deux pour cet éclairage. Et si je devais retirer deux idées fortes de notre émission, je dirais que c'est encourageant d'avoir des exemples bibliques du Seigneur qui chemine avec les femmes et les hommes et qui vient faire route avec nous comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Avant de poursuivre cette émission, nous proposons une balade musicale avec le chant très entraînant « Merci » de Lydiane Stater-West, compositrice, interprète, habitant Saumur. Restez à l'écoute, notre émission se poursuit dans quelques instants.
Merci, quand je te dis merci, je ne suis pas seulement poli. Ce n'est pas une obligation, ni un vestige d'éducation. Merci, merci à toi
qui m'a aidé.
Merci, merci à toi
qui est là.
Merci, merci à toi
qui m'a aidé.
Merci, merci à toi
qui est là.
Vous offrez ma reconnaissance, c'est exprimé avec puissance. Les bienfaits dont la jouissance ne découle que de votre merci, merci à toi
qui m'a aidé.
Merci, merci à toi
qui est là.
Merci, merci à toi
qui m'a aidé.
Merci, merci à toi
qui est là.
Non, je ne vais pas oublier.
Non, non.
ou abandonné de côté. Mon cœur gardera pour toujours fixé l'épreuve de son amour.
Hier, c'est l'espoir pour aujourd'hui. J'ai reçu des belles choses jusqu'ici. Aujourd'hui, encourage demain. Et j'en ai encore du chemin. Et j'en ai encore du chemin. Et j'en ai encore du chemin.
Merci, merci à toi
qui m'a aidé.
Merci, merci à toi
qui est là.
Merci, merci à toi
qui m'a aidé.
Merci, merci à toi.
Parole protestante sur RCF Anjou.